Alors, moi, je m'appelle Philippe Pied, donc je suis actuellement directeur du CSG. Et auparavant, avant d'arriver au CSG, j'ai fait toute ma carrière au CNES à Toulouse. Voilà, et j'ai une formation d'ingénieur.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Alors, mon parcours d'étudiant, il est assez classique, en fait. Enfin, assez classique, surtout à l'époque. C'est-à-dire que j'étais plutôt un bon élève, voilà, donc assez sérieux. Et après le bac, j'ai enchaîné avec des classes préparatoires, scientifiques, et je suis rentré dans une école d'ingénieur, voilà, une école d'ingénieur d'électronique à Paris. Et suite à ça, eh bien, je suis directement rentré au Centre national des études spatiales, puisque c'est là que j'avais envie d'aller.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Alors, mon parcours professionnel, il est très simple, en fait, puisque j'ai toujours eu ce souhait de travailler dans le domaine spatial. Et finalement, je suis rentré au CNES dès la fin de mes études. Donc en 1990, donc ça remonte quand même à un petit moment. Et j'ai fait toute ma carrière au CNES, donc d'abord à Toulouse. J'ai occupé plein de fonctions différentes, des fonctions techniques, des fonctions de management, des fonctions projet aussi, beaucoup de fonctions projet, avant de rejoindre le CSG, donc début 2023, et de tenter une nouvelle aventure dans le domaine en fait de la base spatiale et des lanceurs.
Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur cette carrière d'excellence dans le domaine du spatial?
Alors, pas vraiment, c'est pas une rencontre, c'est plutôt un fil rouge qui s'est imposé à moi sans que je sache trop pourquoi. C'est-à-dire que depuis très très jeune, je voulais absolument travailler dans le domaine spatial sans qu'il y ait comment dire, de relations particulières, puisque mes parents n'étaient pas du tout de ce domaine-là, ni, etc. Mais c'était quelque chose qui me fascinait. Et qui continue d'ailleurs à me fasciner. Voilà, donc pour l'aspect technologique, l'aspect aventure, l'aspect un petit peu d'aller dans l'espace, etc. Et donc en fait, j'ai toujours fait orienter mes choix vers ce domaine-là, sans jamais le regretter. Voilà.
Très bien.
Donc, ce n'est pas une rencontre particulière, c'est plutôt, comme je vous dis, un fil conducteur je pense, dès la seconde, etc. Je savais que j'avais envie d'aller dans le domaine du spatial et donc de faire plutôt une carrière scientifique pour pouvoir accéder à des postes dans ce domaine-là.
Alors, pouvez-vous nous faire part de deux à trois projets, missions phares de votre carrière au sein du CNES?
Alors, la participation au projet au sein du CNES, c'est vraiment une aventure exceptionnelle, hein. Donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs projets différents. C'est vrai que j'aurais tendance à citer un projet particulier qui s'appelait Parasol, qui était un microsatellite d'observation de l'atmosphère. Alors pourquoi celui-là en particulier? Parce que c'est un projet où vraiment on était une toute petite équipe et on faisait un satellite qui n'était pas du tout ambitieux, très simple, fait avec de la récupération, mais on a vraiment tout fait nous-mêmes. Vraiment, voilà. Et donc c'est sûr que c'est une satisfaction particulière quand le satellite il arrive en orbite et puis vous en connaissez les moindres détails, exactement comment ça fonctionne, que tout a été conçu et intégré avec vos équipes. C'est vraiment un moment particulier, même si c'était un tout petit satellite, pas du tout technologiquement ambitieux. Et puis après les autres missions avant Ariane 6, hein, puisque Ariane 6 c'est vraiment bon tout récent, mais c'est quelque chose d'unique à vivre. Mais les autres missions qui m'ont le plus marqué, c'est les missions martiennes avec le JPL, hein, avec la NASA. Alors pourquoi? Ben, c'est vrai que quand vous faites un instrument ou une partie d'instrument qui va sur Mars, il y a tout de suite une complexité incroyable, beaucoup, beaucoup comment dire, c'est pas de stress, mais de choses que vous maîtrisez pas, parce qu'une fois que ça arrive sur Mars, c'est tellement loin que finalement, tout doit être automatisé, réglé, et le travail avec le JPL là-dessus est vraiment passionnant parce qu'ils ont une expérience incroyable et on retrouve aussi ces cette espèce d'excitation incroyable là, d'avoir quelque chose qui va eh ben, marcher ou pas sur Mars à distance. Il faut voir que quand vous recevez la télémesure de Mars sur un instrument, par exemple, pour savoir s'il marche ou pas, en fait, elle a été émise 40 minutes avant à cause du temps de trajet. Et donc, il y a toujours quelque chose de fascinant pour moi, en tout cas, dans les missions martiennes.
Bien. Alors, récemment, on a pu vivre une très belle réussite du CNES et de l'ESA, car le mardi 9 juillet 2024, le lanceur Ariane 6 a effectué son premier lancement au sein du port spatial guyanais. Pouvez-vous nous rappeler les principaux objectifs de ce premier lancement et la spécificité des satellites envoyés?
Alors, ce premier lancement, on l'appelle vol inaugural, donc il doit, c'est, n'était pas un vol de test, puisque des tests, il y en avait eu énormément de réalisés avant ce lancement. C'était vraiment un vol destiné à finaliser, à montrer que tout marchait, que le système était maîtrisé et qu'on allait pouvoir passer ensuite à des lancements commerciaux. Donc, ce n'était pas un lancement commercial. Il y avait un certain nombre de satellites, mais ce sont essentiellement des petits satellites hein, qu'on appelle des CubeSats, qui sont. Alors, sur ces CubeSats, vous savez, on parle en unité. C'est-à-dire une unité, c'est un litre, c'est 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Puis on peut avoir des CubeSats de une unité, deux unités, trois unités. Il y avait une dizaine de petits satellites de ce type-là sur la charge utile, et avec aussi ce qu'on appelle des dispenseurs, c'est-à-dire que c'est des espèces de tubes qui éjecte avec un ressort et qui éjecte ces petits satellites. Et ça, c'est très important en termes de validation, parce que ces dispenseurs, ils vont être utilisés aussi après pour déployer des constellations. Donc, le vol inaugural, l'aspect charge utile était bien sûr important, hein, c'est-à-dire ces petits satellites, mais ce n'était pas ça le point fondamental, c'était de montrer que toute la séquence, avec les réallumages, avec toutes les séparations, etc., étaient maîtrisées. Aujourd'hui, la démonstration a été faite, même si le dernier boost, vous le savez, destiné à désorbiter le dernier étage, n'a pas pu être réalisé. Mais finalement, il ne faisait pas partie de la mission nominale. Donc, tout le reste a été réalisé et avec une grande maîtrise. Donc, c'est un très grand succès pour l'ESA, pour le CNES, pour l'Europe.
Et puis les laboratoires, parce que qui ont favorisé au développement de ces CubeSats. Je crois qu'il y avait le laboratoire de Montpellier, ou je ne sais plus ce
Alors, il y
qu'il y avait.
avait le laboratoire de Montpellier, enfin, le centre universitaire de
Oui.
Montpellier, qui avait trois unités, je crois, qui s'appelle Robusta, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et je crois que leur satellite, il marche bien. Il y avait un satellite aussi d'étudiants de l'ESA, qui s'appelle ITSAT, etc. Donc, effectivement, ça permet aussi de faire des expériences. Il y avait des expériences embarquées sur le plateau qui porte les charges utiles d'Ariane 6. Donc, il y avait pas mal de choses. Et donc, évidemment, c'est une belle opportunité pour toutes ces petites structures d'être embarquées, de faire des tests, de voir si leur satellite marche bien, etc. Et je crois que globalement, tous les gens qui ont été embarqués, il y avait beaucoup beaucoup de monde hein, parce que quand on voyait le plateau avant d'être mis en haut de la fusée, il y avait énormément de petits satellites. Là, c'était un peu une cohabitation très très variée et qui s'est fait dans une très bonne ambiance aussi parce que c'était essentiellement des jeunes, des étudiants, donc on travaillait ensemble et je crois que tout le monde était ravi d'être embarqué et d'être largué en orbite par le premier vol inaugural.
Très bien. Combien de lancements prévoyez-vous pour Ariane 6 par en moyenne, plutôt sur les premières années et par la suite? Parce que je pense que les premières années,
Alors,
on
en fait,
n'aura pas beaucoup de lancements. Enfin,
si ça va monter très vite,
ah,
si tout
d'accord,
va
ok.
bien, c'est ce qu'on appelle le ramp-up, hein, donc c'est-à-dire la montée en cadence. Et ce qui est prévu aujourd'hui, alors après, c'est ce qui est prévu dans le manifeste, hein, ce qu'on appelle le manifeste de tir, c'est-à-dire d'avoir 6 Ariane 6 l'an prochain, donc c'est déjà pas mal, et de passer à 10 l'année suivante, hein, donc en 2026. Et après, le régime de croisière, entre guillemets, il se situerait autour d'une douzaine de lancements, c'est-à-dire un Ariane 6 par mois suite. Donc, c'est quand même une cadence qui est loin d'être négligeable parce qu'il y a toute la logistique derrière pour amener les fusées, les préparer, les lancer, etc. Donc, c'est ça qui est visé. Alors, est-ce que Si tout marche bien, peut-être qu'on atteindra un peu plus tard une cadence à 15 lancements Ariane 6 par an. Aujourd'hui, je vous dis, c'est ce qui est prévu, c'est une montée avec 6, 10, puis peut-être 12 dans les 3 ans qui viennent, ce qui est quand même une montée significative, hein, parce qu'aujourd'hui, ben, vous le savez, on n'a pas fait beaucoup de lancements ces dernières années. Donc, il faut qu'on se structure pour revenir à ces cadences-là.
Alors, l'apparition de ce nouveau lanceur se développe dans un contexte spatial international très concurrentiel. Je fais notamment allusion au grand nom que nous connaissons tous et nous entendons souvent, c'est SpaceX, Blue Origin, mais aussi Vega. Comment se place le CNES et l'ESA dans ce contexte assez complexe et dans un environnement spatial international en dynamique croissante. Quand on regarde les différents pays à l'international, on voit des développements non négligeables.
Alors, la question est complexe parce que effectivement, on bénéficie d'abord, vous l'avez signalé, en termes de contexte, hein, d'une croissance de l'activité spatiale qui est très importante, de besoins en termes de lancement qui sont très importants, à la fois pour les satellites scientifiques, mais aussi pour tout ce qui est commercial, notamment les constellations. On voit arriver des constellations dans le domaine des télécommunications qui lancent des centaines de satellites, les besoins en termes de défense aussi, les besoins en termes de surveillance de la planète qui sont en pleine croissance. Donc le nombre de satellites à lancer, il est en pleine croissance. Alors après, en termes de concurrence ou de compétition, il est clair que SpaceX a comment dire, des cadences et des carnets de commandes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a sur le marché européen, hein, puisqu'ils envisagent, je crois, cette année de lancer 140 fois. Donc ce sont des cadences qui sont de toute façon comment dire, dimensionné pour un marché qui est un marché américain avec énormément de lancements institutionnels et qui ne correspond pas au marché européen. Ceci étant dit, on pourrait penser que Ariane 6 n'a pas sa place dans cet environnement concurrentiel. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et la meilleure preuve, c'est que aujourd'hui, Ariane 6 a déjà 30 lancements précommandés. Donc, ces 30 lancements, vous voyez, c'est quasiment 3 ans d'activité. Ce qui veut dire que Ariane 6 correspond à un besoin. Alors, c'est un besoin qui se situe à côté du marché de SpaceX, mais c'est un besoin qui peut être lié à plusieurs choses. D'abord, le marché institutionnel européen, hein, où l'Europe souhaiterait lancer ses satellites avec des fusées européennes pour des questions de souveraineté, la France aussi, et aussi parce qu'on a certains acteurs, et ça, il faut quand même en être conscient, qui cherchent une alternative à la solution tout SpaceX. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils peuvent être en concurrence avec certaines activités de SpaceX ou ne pas souhaiter être complètement dépendant d'une seule solution technique. Donc, le marché pour l'alternative Ariane 6, elle existe vraiment. Elle suscite beaucoup de demandes. Le lanceur, il va devoir bien sûr démontrer sa fiabilité, mais je n'ai aucun doute là-dessus. C'est un lanceur qui est extrêmement performant. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une place. Alors, il ne faut pas se dire que demain, je pense que ce serait illusoire de se dire que demain, Ariane 6 va atteindre des cadences de lancement qui sont celles de SpaceX. Il n'y a ni le marché, ni la capacité pour le faire. Mais par contre, il y a vraiment un positionnement à côté de SpaceX et d'autres pour, je vous dis, des lancements institutionnels européens, des lancements liés à la défense nationale ou à la défense d'autres États européens et des alternatives pour des projets commerciaux. Voilà, pour pas que tout soit entre les mains SpaceX.
Très bien, très bien, très bien. Alors, quels sont les prochains challenges du Centre spatial guyanais? Pouvez-vous nous en citer deux ou trois?
Alors, les challenges du Centre spatial guyanais, en fait, ils sont très clairs. La feuille de route, elle est très claire et je pourrais dire qu'elle se décompose en trois axes, hein. Le premier axe, on vient d'en parler, c'est la remontée en cadence des lanceurs institutionnels, c'est-à-dire d'Ariane 6 et de Vega. Vous savez que Vega aussi a eu un incident en vol, le dernier Vega C. Il y a eu une reprise de design et là, on devrait relancer un Vega C. Dès la fin de cette année, c'est prévu fin novembre. Et ensuite, c'est pareil, la cadence va remonter pour les Vega, puisque l'an prochain, on prévoit de faire aussi, en plus des 6 Ariane 6 dont je vous ai parlé tout à l'heure, de lancer 4 Vega C. et puis 6 l'année d'après. Donc ça, c'est ce que j'appelle la remontée en cadence des lanceurs institutionnels, qui va nous amener rapidement à avoir peut-être 15 à 16 lancements de type Ariane 6 ou Vega à gérer sur le CSG. Ça, c'est la colonne vertébrale de l'activité du CSG, hein, ces lanceurs lourds institutionnels, de leur gestion et puis assurer leur lancement dans des bonnes conditions. C'est le premier axe et c'est l'axe fondamental. Le deuxième axe, c'est l'accueil de nouveaux entrants, hein, ce qu'on appelle de nouveaux entrants, c'est-à-dire des sociétés qui sont plutôt à fonds privés, hein, donc qui sont financées par des investisseurs privés et qui ont un business model basé sur des lancements de plutôt de petits satellites, hein, inférieurs à 1,5 tonne, et donc qui prévoient des lancements assez nombreux, à coût modéré, on va dire, et avec un business plan qui est complètement privé. Donc ça, le CSG est en train de se dimensionner, hein, de réaliser des pas de tir, alors qu'ils sont sans commune mesure avec un pas de tir Ariane 6, hein, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, mais des pas de tir qui permettent d'accueillir ces micro-lanceurs, ces nouveaux acteurs dans des bonnes conditions. Alors en fait, on leur offre l'infrastructure, si vous voulez, comme un aéroport offre l'infrastructure à des compagnies aériennes différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle aéroport, donc Spaceport en fait pour nous, c'est-à-dire de dire bah oui, il y aura des grosses compagnies aériennes qui seront accueillies sur la base, et puis d'autres, des plus petites, avec des business models différents. Et ces petites, elles paieront entre guillemets des taxes d'aéroport pour bénéficier en fait de la logistique du CSG. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe qui accompagne ça, c'est un grand plan de modernisation de la base. Hein, donc on a un certain nombre de budgets à la fois national et européen pour moderniser la base. Qu'est-ce que ça veut dire moderniser la base? Ça veut dire que c'est moderniser un certain nombre d'infrastructures. Hein, bon, vous savez, une base, c'est des grosses infrastructures. Moderniser nos outils aussi, nos outils logiciels. Alors pourquoi? Eh bien, parce que effectivement, si on doit avoir des cadences de lancement bien supérieures à ce qu'on fait aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de se reconfigurer très facilement d'un lanceur à l'autre, avec des outils que les opérateurs sachent manipuler simplement, hein, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'avoir un set d'outils pour une Ariane 6 et puis vous passez sur un autre lanceur, il faut tout changer. Donc on puisse se reconfigurer assez facilement avec des outils performants. Et dans ce chantier de modernisation aussi, on a la transition énergétique de la base. Hein, donc on a un gros programme d'accompagnement de la transition énergétique de la base, parce que la base, c'est un gros consommateur d'énergie, hein, d'électricité. Et alors, à la fois pour les installations, mais aussi pour les lanceurs, parce que vous savez qu'on produit les carburants des lanceurs sur place, et que c'est très consommateur. Et là, on a plusieurs projets pour produire de l'électricité verte, hein, donc des champs photovoltaïques, de la biomasse, réduire nos consommations énergétiques, et même produire de l'hydrogène sur place par électrolyse de l'eau. Donc tous ces plans-là de transition énergétique, eh bien, ils vont accompagner le développement de la base pour une base plus verte et plus écologique et plus économique aussi, parce qu'effectivement, si on arrive à produire un certain nombre de choses à partir d'électricité solaire, par exemple, à la fin, on devrait y être gagnant aussi sur un plan économique.
Question toute bête, parce que en fait, vu cette dernier challenge, la dynamique que va avoir la base, le port spatial, vous allez créer encore plus d'emplois en interne, en fait.
Alors, on espère bien, hein, donc parce que vous le savez, là, dans les dernières années, la base a perdu, entre guillemets, un certain nombre d'emplois, mais en fait, ça s'est fait avec une réduction des effectifs sans aucun licenciement, puisqu'en fait, finalement, on a fait venir moins de gens de métropole, etc. Et là, on espère bien qu'avec cette reprise des cadences, tous les chantiers dont je vous ai parlé, et la base réemploie à nouveau, enfin, réaugmente ses effectifs, hein, pour accueillir toute cette activité. Alors, ça va pas être une augmentation, comment dire, complètement enfin, majeure, parce que aussi l'idée c'est d'avoir des outils qui nous permettent d'être plus efficients, hein, donc de gérer des choses de façon plus automatisée, plus numérique, etc. Mais il est clair que la base et les cas, vous savez que sur la base on accueille 42 industriels, hein, donc qui travaillent, donc qui en fait, qui sont dans une sorte de coactivité, hein, sur toute cette activité des lanceurs, eh bien chez ces industriels, il y aura certainement comment dire, une augmentation des effectifs, avec des profils qui vont être peut-être aussi différents, beaucoup de technologies dans le domaine du numérique, etc., pour gérer une base moderne.
Ce qui est très positif.
Tout à fait, on est pas.
Alors, en parallèle du lanceur, Ariane 6, le centre spatial guyanais, s'organise à recevoir des multi-lanceurs que vous avez énoncés, bien entendu, principalement réalisés par des startups européennes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'organisation de ces lancements et les principales startups qui vont lancer leur fusée au CSG?
Alors, les principales, aujourd'hui, on a retenu, pré-retenu, on va dire, parce qu'en fait, il y a eu, si vous voulez, un appel à une manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que le CSG a dit, bah, nous, on est prêt à accueillir des micro-lanceurs, qui est intéressé? Donc, on a des startups on a retenu des startups de l'Europe entière, puisque il y a Vega qui a candidaté pour un petit lanceur, Maya, qui est un lanceur national, Latitude aussi, qui est national, et puis deux lanceurs allemands, RFA ISAR, et un lanceur espagnol qui s'appelle PLD. Bon. Donc toutes ces sociétés sont comment dire, des startups, hein, effectivement, qui développent toutes leurs lanceurs. Alors, on dit micro-lanceur quand ça va jusqu'à la mise en orbite d'une tonne 5, hein, ce qui est déjà conséquent, mais évidemment, ça passe, c'est sans commune mesure avec une Ariane 6 qui peut mettre 20 tonnes en orbite. Hein. Et finalement, si vous voulez, l'accord qu'on a avec ces micro-lanceurs, c'est de dire, ben, nous, on va vous développer des pas de tir, des infrastructures, adapter certaines de nos infrastructures à vos besoins, hein, de façon, sachant qu'on reste quand même dans des choses assez simples. Hein, donc voilà. Et puis, on vous accueillera le jour où vous serez prêt à lancer sur nos installations. Et vous pourrez bénéficier d'un certain nombre de services, moyennant finance. Hein, donc voilà. Et ces services, finalement, ils sont un peu à la carte, c'est-à-dire, bah, nous, on va fournir toute la logistique d'une base, mais peut-être qu'il y aura des lanceurs qui voudront que certains services et pas d'autres, qui voudront gérer certaines choses eux-mêmes, etc. Donc pour nous, c'est aussi un challenge, ça, parce qu'il faut qu'on sache s'adapter, finalement, à des demandes assez variées. Hein, il y en a peut-être qui font un lancement par an, d'autres qui disent qu'ils vont en faire 50, etc. Donc il faut qu'on voit tout ça. Mais en tout cas, on est en train d'y travailler. On a des contacts avec ces différentes sociétés. On essaye de standardiser aussi les choses. Ça, c'est important pour que nous, ça ne soit pas, bah, si vous voulez, un peu comme quand sur un aéroport, quand c'est un avion de tel type qui part ou un autre. On ne change pas tout l'aéroport, hein, donc il faut que ça soit un peu le même principe. Et donc de travailler là-dessus avec ces sociétés, pour l'instant, ça avance bien. On espère avoir peut-être, hein, si tout va bien, les premiers lancements fin 2025.
Donc c'est, ouais, ça avance très très vite en fait.
Ça avance vite. Ouais.
Alors, quel conseil pourriez-vous donner à la nouvelle génération de leaders du spatial pour préserver le plus possible la spécificité du spatial européen, qui implique nécessairement la fameuse question de la préservation de la souveraineté avec les particularités françaises dont le général de Gaulle énonça en 1961 en disant, en énonçant, la grandeur de la France exige sa présence dans l'espace. Propos qui participeront incontestablement à transmettre les grandes lignes, les directives pour le développement de la famille des lanceurs Ariane.
Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils à quiconque. Hein, donc, voilà, moi, si vous voulez, je pense quand même qu'effectivement, cette notion de souveraineté, elle continue d'exister. Effectivement, elle a été énoncée par le général de Gaulle il y a 60 ans, hein, puisque vous savez que en fait, la déclaration du général de Gaulle visant à créer le centre spatial guyanais, elle date de 1964, donc pile 60 ans. Donc il y avait clairement une vision et je crois que cette vision elle se prolonge, hein, elle n'a jamais été démentie, c'est-à-dire de dire si on veut avoir un rôle international, si on ne veut pas être totalement dépendant, la présence dans l'espace est nécessaire, ça c'est le premier volet. Vous voyez qu'aujourd'hui finalement on a énormément de choses qui dépendent d'activités spatiales, hein, que ce soit la navigation, les Galiléo, la météo, la surveillance de la planète, un certain nombre d'activités de défense, de surveillance de nos partenaires ou autres. Donc, on est, sans peut-être trop s'en rendre compte, extrêmement dépendant d'activités spatiales, et il n'y a pas de grande aujourd'hui nation qui n'ait pas une présence forte dans l'espace. Cette présence forte dans l'espace, c'est faire des satellites, mais c'est aussi savoir y accéder, parce que si vous n'avez pas d'accès à l'espace, ben, vous êtes totalement dépendant d'autres qui peuvent effectivement ben, dire un jour venu, peut-être dire ben non, maintenant on vous ferme l'accès à l'espace et donc vous perdez toutes vos ressources dans ce domaine-là. Ce n'est pas qu'institutionnel, hein, c'est économique aussi. On voit aussi apparaître maintenant ces fameuses constellations pour les télécommunications, etc. Et donc, on peut imaginer que peut-être qu'on pourrait rentrer dans des débats avec d'autres, si on n'avait pas de capacité de lancement, perdre l'autonomie même économique pour accéder finalement à ces technologies. Donc moi, mais c'est un avis personnel, je pense que l'accès à l'espace reste complètement d'actualité en termes de souveraineté économique, technologique, nationale et européenne. Et donc aujourd'hui, le retour en vol, et je pense que c'est tous les acteurs l'ont souligné, le retour d'un lanceur lourd comme Ariane 6 dans le paysage, est un élément majeur pour la souveraineté française et européenne.
Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier?
Ah, alors ça, c'est une bonne question, parce que jeunes filles et jeunes garçons, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, l'engouement pour les filières techniques, il est peut-être moins fort qu'avant, hein. Particulièrement chez les filles, c'est bien dommage, qui préfèrent choisir d'autres carrières. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut, il faut pas avoir peur et il faut se lancer et que c'est tout à fait accessible. On a plein, notamment dans le spatial, plein de métiers passionnants qui sont souvent des métiers aussi de coordination. Hein, vous voyez, un lanceur comme Ariane 6, ce sont des milliers de personnes qui travaillent et il y a tout un tas d'activités de coordination pour que tout s'assemble comme il faut au bon moment. Hein. Donc, c'est des métiers qui sont passionnants. Il faut accepter effectivement un certain côté scientifique un petit peu dans ses études, mais je crois que ça vaut vraiment le coup et qu'il faut pas. Il y a peut-être de l'inhibition, hein, qui se met en place en se disant oh, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, ou etc. Il faut vraiment lever ces tabous, se dire que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait accessible et qu'il faut pas hésiter et que c'est pas plus dur que d'autres domaines comme la médecine ou autre. Hein.
Alors, pour terminer, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi en fait?
Alors, je ne sais pas si c'est une nécessité, je ne dirais pas ça, mais je dirais que tout ce qui peut permettre de promouvoir un petit peu ces activités scientifiques, de les démystifier aussi, de les rendre accessibles à un public plus large, de valoriser l'intérêt que ça représente et puis qu'est-ce qu'il y a derrière, est nécessaire, effectivement, et bienvenue, parce que effectivement on a besoin que je pense d'abord, il y a un attrait du public. Hein, du grand public, je vois, moi, depuis le lancement d'Ariane 6, on a quand même énormément de gens qui sont intéressés, hein, par ces aspects-là, par le spatial, mais aussi par tout ce qui est technologique en général. Et donc, tout ce qui peut faire le lien, entre guillemets, entre eh bien, la population, nos futurs ingénieurs, etc., et puis ces domaines-là, est bienvenu, et je crois que ça vaut vraiment le coup de vulgariser, de communiquer, de montrer qu'il y a plein de perspectives intéressantes. Et du coup, ce rôle-là, il est très important, effectivement.